s'il n'entend pas, ben, ma foi, il aura le conflit et la paralysie de l'économie jusqu'à ce qu'il revienne à de bonnes grâces.
La menace est claire, la grève des cheminots peut durer autant que nécessaire.
Le gouvernement lui reste ferme, en tout cas apparemment, la réforme des retraites se fera. Nouvelle réunion des ministres concernés ce soir à l'Élysée.
Nous serons aussi à Noirmoutier. Les ostréiculteurs cherchent désespérément des travailleurs saisonniers. Il faut dire que pour ce métier, il ne faut pas être un mollusque.
Il fait froid, on porte des charges jusqu'à 20 kilos. On a les mains mouillées tout le temps. Des fois, on a les nerfs un peu à vif. C'est pas facile tous les jours.
Et puis un numéro qu'on ne peut voir qu'au Cirque Phénix, du tir à l'arc avec les pieds. Je sais que vous êtes un spécialiste, Geffrier. Le spectacle vient de Mongolie.
Je vais essayer.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une réforme sur laquelle aucun des deux camps ne veut battre en retraite. Le rapport de force est bien là, grève très suivie, manif massive jeudi dernier. Une autre est prévue mardi et de l'autre côté, un gouvernement déterminé à en finir avec les régimes spéciaux.
Alors en attendant que cette fameuse réforme soit enfin dévoilée mercredi, le gouvernement s'affiche au travail, Jean-Rémy Baudeau.
Nous sommes calmes et sereins. À force de répéter ces éléments de langage, même les membres du gouvernement en sourient. Élysée, Matignon, ministre, tout le monde s'affiche déterminé à mener à bien ces négociations, malgré la pression des manifestations. On ne fait pas une réforme des retraites sans mettre les gens dans la rue, rappelle régulièrement le Premier ministre en privé. Les prochaines heures sont donc dédiées aux ultimes discussions, aux derniers arbitrages. Un proche d'Édouard Philippe le promet. Mercredi, on pourra rassurer beaucoup de gens, notamment les profs et les femmes. L'entourage du Premier ministre le martèle. Il y a encore des choses à négocier, notamment sur les transitions ou la pénibilité. Et qu'importe si le calendrier choisi par l'exécutif crée pour le moment surtout de l'inquiétude chez une partie des Français et un angle d'attaque pour l'opposition et les syndicats. Rendez-vous mercredi. Si on accélérait les annonces, vous pensez vraiment que la CGT retirerait son préavis de grève ? Ironise un conseiller.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
La grève est encore plus suivie ce dimanche qu'hier. La preuve avec les prévisions de trafic fournies par la SNCF et la RATP.
Un intercité sur 10, 2 TER sur 10, le plus souvent assuré par des cars, un TGV sur 6, idem pour les Ouigo. En Ile-de-France, un Transilien sur 7. Les lignes de métro 1 et 14 sont les seules à fonctionner. Le RER A fermé, le RER B ne roulera que de midi à 18h.
Demain, lundi, ce sera pareil ou à peine mieux. Et ça n'est peut-être qu'un début, prévient Laurent Brun, c'est le secrétaire général de la CGT Cheminots. Il appelle à la poursuite et au renforcement de la mobilisation.
Les confédérations ont été plutôt claires sur ce qu'elles attendaient de ce gouvernement. Maintenant, à lui de savoir si il veut aller à l'épreuve de force ou si, au contraire, il veut retirer son projet pour entendre le mécontentement de la population dans son ensemble. S'il n'entend pas, ben, ma foi, il aura le conflit et la paralysie de l'économie jusqu'à ce qu'ils reviennent à de bonnes grâces. Nous, nous voulons un système solidaire, intergénérationnel, interprofessionnel, qui permette à tous de partir dans de bonnes conditions. Ça veut dire reposer la question de l'âge de la retraite, non pas de son augmentation, mais au contraire de son abaissement, trouver des sources de financement au travers de la politique salariale et de la politique de l'emploi, et pas se partager la misère comme c'est proposé actuellement. Nous sommes partis en grève. Pour l'instant, la logique, c'est d'obtenir satisfaction sur la revendication. Nous perdons chaque jour du salaire, mais ce que nous perdrons avec cette réforme est bien plus importante, et donc on voudra aller au bout, évidemment, de la bataille.
Laurent Brun de la CGT Cheminots au micro européen de Caroline Baudry.
Et sur ce thème de la fronde sociale, bien sûr, on entendra avec beaucoup d'intérêt l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, à partir de 10h, Éric Woerth, le député Les Républicains et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. En tout cas, dans ces conditions faibles en ce qui concerne les transports publics, soit vous arrêtez de vous déplacer, soit vous allez à pied, soit à deux roues.
On observe dans les magasins de sport une frénésie ces jours-ci, comme le montre ce reportage d'Hélène Terzian, que ce soit pour s'équiper ou pour entretenir un très vieux vélo.
Un truc pour dérouiller mon vélo, ne l'ayant pas sorti depuis les beaux jours, je me retrouve contraint de le ressortir avec les grèves.
Avec sa bombe anti-rouille en main, Martin va pouvoir huiler ses chaînes et dès demain enfourcher son vélo pour aller travailler. Un trajet de 20 minutes au lieu de 50 minutes de marche.
Là forcément, il fait un peu plus froid, donc j'étais un peu plus paresseux. Et en plus, si je sors après le travail, je me retrouve assez vite contraint et je dois trouver une solution pour rentrer. Et donc ça finit en Vélib, mais il faut en trouver un disponible. Donc avoir son propre vélo, forcément, ça facilite la tâche.
Depuis la veille de la grève, les clients comme Martin affluent en rayon. Ils s'équipent en casque, en antivol, viennent changer leurs roues. Et avec le mouvement parti pour durer plusieurs jours, ils n'hésitent pas à investir 200 euros dans un vélo, raconte Robin, le vendeur.
Ça s'est vraiment vendu comme des petits pains. Sur la semaine, on a multiplié par 4 le nombre de vélos vendus. Et donc, on est débordé, clairement. C'est très impressionnant. On doit même, des fois, donner des petits cours de sécurité, apprendre aux gens à se rééquilibrer, en tout cas se placer sur la route. Il faut qu'ils puissent se déplacer pour aller travailler. C'est 5, 10 km, 15 km, c'est faisable à vélo.
Une telle ruée sur les vélos, ça s'est rarement vu, si ce n'est pendant les grèves de 95, poursuit-il. À l'époque, des collègues apprenaient même aux clients à faire du vélo dans les rayons.
Reportage Europe 1 d'Hélène Terzian. La politique avec un possible affrontement entre deux actuels ministres. Aux prochaines municipales, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, sera candidat à Biarritz, il l'a dit au journal Sud-Ouest. Problème, son collègue chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, est lui déjà sur une autre liste, celle du maire sortant.
La suite de ce journal, dans un court instant, si vous cherchez du travail, eh bien du côté de Noirmoutier, les ostréiculteurs recrutent à tour de bras.
Il est 8h07 sur Europe 1.
Europe 1, Bernard Poirette.
Europe 1.
Retour de l'actualité avec François Geffrier et Bernard Poirette.
Une petite annonce ce matin sur Europe 1. Ostréiculteurs cherchent main d'œuvre.
Et ils lancent un SOS. On rappelle que Noël, c'est dans 2 semaines et demie et c'est là qu'ils réalisent le plus gros de leurs ventes. Ils ont toutes les peines du monde à trouver des travailleurs saisonniers et doivent parfois embaucher des salariés venus de Hongrie. François Coulon est à Noirmoutier pour Europe 1.
L'enjeu est colossal. En 3 semaines, c'est 60% du chiffre d'affaires annuel qui est dans la balance. À quelques jours du top départ, Marie-Emmanuelle Sourbier n'est pas encore certaine de pouvoir compter sur la totalité de l'effectif requis pour récolter, calibrer et emballer plusieurs centaines de tonnes d'huîtres.
Le lundi 16, tous les postes doivent être occupés et c'est parti pour 10 jours non-stop. On doit être 55 personnes ici à travailler.
Vous les avez ou pas ?
Là, on a une dizaine de personnes de Hongrie. Les jeunes Français tentent, mais ne cherchent pas à persévérer. On cherche des marins notamment et il n'y a plus de marins. On met des annonces sur Pôle emploi, on n'arrête pas de les renouveler et il n'y a aucun marin qui se présente. C'est jamais gagné parce que même quand ils sont là, ça ne leur plaît pas, parce qu'il y a des gens qui découvrent le métier, mais même si ça ne leur plaît pas, quand on s'engage pour une saison, normalement on doit continuer.
1600 euros net par mois pour un labeur exigeant, Tiffany, 22 ans.
Physiquement, c'est difficile. Il fait froid. On porte des charges jusqu'à 20 kilos. On a les mains mouillées tout le temps. Des fois, on a les nerfs un peu à vif. C'est pas facile tous les jours. On voit beaucoup de gens défiler qui font un jour ou deux et puis qui repartent.
Peu de chômeurs et peu de logements disponibles sur l'île, de quoi corser un peu plus le tableau à l'approche des fêtes. Noirmoutier, François Coulon, Europe.
La générosité des Français n'est pas en grève. 74 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon, soit quasiment autant qu'il y a 2 ans. C'est positif après une édition 2018 en baisse du fait d'annulation d'événements en raison du mouvement des Gilets jaunes.
Et donc, comme promis, avec les titres très étranges, donc, on vous emmène au cirque, juste avant la page des sports.
Ça n'a rien d'étrange, car la Mongolie est venue jusqu'à nous, en tout cas pour ceux qui voudraient et pourraient se déplacer jusqu'à la pelouse de Reuilly, dans le bois de Vincennes à Paris. Le cirque Phoenix fête ses 20 ans avec les étoiles du cirque de Mongolie. Diane Chenouda, qui pourrait tout à fait faire Madame Loyal à Europe 1, elle est allée voir ce spectacle Europe 1.
La Mongolie, comme si on y était, avec ses paysages de montagne, ses yaks, ses chevaux, ses yourtes, ses chants et costumes traditionnels flamboyants, et ses danseurs, lutteurs, jongleurs, acrobates, qu'Alain Pachery, le directeur artistique du Cirque Phoenix, est allé chercher sur place.
Leur spécialité, c'est le tir à l'arc par les pieds, par des jeunes filles qui sont en contorsion, donc déjà, le tir à l'arc avec les mains, c'est pas facile. Avec les pieds, c'est encore plus difficile. Et en contorsion, avec le regard à l'envers, je ne m'y risquerai pas.
Et le public est conquis.
Ben moi, je trouve que c'est très original. Et ils ont beaucoup de souplesse, ils ont beaucoup d'imagination et de créativité chaque année. Moi, je trouve que c'est super.
On est en train de parler justement de la Mongolie, on ne connaît pas du tout ce pays. Et de les voir à la comme ça, on a l'impression de voyager, on a l'impression de vraiment c'est très exotique et on aime beaucoup.
Merveilleux. On a l'impression d'y être.
Pareil, j'ai l'impression de voyager, c'était très chouette. Le monsieur avec le cerceau, on a l'impression qu'il volait.
Une vraie parenthèse enchantée.
Diane Chenouda pour Europe 1, j'ai hâte que vous essayiez le tir à l'arc avec les pieds, Bernard.
Je vais m'y employer dès cet après-midi.
Prendrai des photos. Hein. 8h11, c'est votre journal des sports avec François Geffrier.
Voilà une belle affiche, François. Ce soir, au Vélodrome à Marseille, on parle bien sûr de football. En Ligue 1, Marseille reçoit Bordeaux.
Le deuxième du championnat face au cinquième. Deux équipes en forme. En ce moment, l'OM reste sur 5 victoires consécutives. Le coach André Villas-Boas est conscient aussi de la force de son adversaire de ce soir.
On va trouver un ball de Bordeaux le plus fort possible. Et on se trouve aussi dans la maximum condition. J'espère sincèrement que ça peut devenir un bon match pour regarder. Alors j'espère que ça va être une saison spéciale. Maintenant, on se trouve bien. Si on gagne dimanche, ça nous peut donner un boost de confiance et aussi cette différence de points qui est en marge un peu plus confortable. Mais on va petit à petit. Pour nous, c'est match par match. Et à profiter de cette opportunité qu'on a d'écarter une autre adversaire.
Mmh. André Villas-Boas avec Stéphane Frangy pour Europe 1.
Marseille-Bordeaux, donc c'est à 21h ce soir en direct et en intégralité sur cette antenne. Deux autres matchs avant cela, Reims-Saint-Etienne à 15h. Et Nantes-Dijon à 17h. Il y avait des matchs également hier soir.
Le PSG a renversé son match contre Montpellier à la Mosson. Victoire des Parisiens 3-1 qui était menée 1-0. Mais on fait parler Neymar, Mbappé et Icardi. Strasbourg a battu Toulouse 4-2. Monaco s'est imposé à domicile contre Amiens 3-0. Rennes a battu Angers 2-1. Nice a dominé Metz 4-1.
La Coupe d'Europe de rugby. Cet après-midi, il y a un duel franco-français. Montpellier se déplace à Toulouse.
Pour la première fois de la saison, Cheslin Kolbe, l'ailier sud-africain, champion du monde et meilleur joueur de top 14 la saison dernière, fera son apparition dans le groupe toulousain, ce qui réjouit son coéquipier, le pilier Cyril Baye.
Même si on joue devant, c'est un plaisir de jouer avec lui et c'est surtout une chance parce que voilà, c'est un joueur extraordinaire. Moi, je le connais depuis un petit moment maintenant. Je l'avais affronté en moins de 20, donc j'ai quelques souvenirs en tête où il m'avait fait un petit peu des misères, mais voilà, c'est quand même un honneur de l'avoir avec nous et je suis très content qu'il soit champion du monde. C'est une belle chose pour lui. Et j'espère qu'il va beaucoup amener à l'équipe dès ce week-end.
Le Toulousain Cyril Baye au micro européen de Patrick Anselmetti. Hier, Lyon a scotché Trévise 28-0. La Rochelle a été battue par Glasgow 27-24. Et les Ospreys ont perdu à domicile face au Racing 92 sur le score de 40-19. Et puis rappelons la médaille d'argent décrochée par la Française Beryl Gastaldello sur le 50 mètres d'eau. Au championnat d'Europe de natation à Glasgow avec un magnifique plongeon, Florent Manaudou a fini 5e de la finale du 50 mètres papillon.
Est-ce qu'on a le bruit du papillon ou pas ? 50 mètres d'eau, on ne part pas en plongeant.
Oh,
donc
c'était
c'est
pour le
mal
bruitage.
À propos, comme on dirait. Merci beaucoup François Geffrier qui présentait le journal de 8h. Il reviendra à 9h.